France Culture.
Tenez, je vous propose de venir voir en direct notre expérience.
1000 grammes, une expérience qui dérange. Par Quentin Jagorel et François Test.
Installez-vous, monsieur le procureur. Avec cette glace sans teint, vous pouvez voir sans être vu. Vous avez ici un potentiomètre pour entendre ce qui se dit de l'autre côté.
Premier épisode.
Je reviens dans un instant.
450 volts ou la soumission à l'autorité.
Eh bien, messieurs, d'abord quelques mots sur l'expérience que nous allons tenter aujourd'hui. Une théorie établie par des psychologues soutient que l'individu apprend correctement et d'une manière plus efficace lorsqu'il sait que chaque erreur de sa part lui attirera une punition. Et c'est scientifiquement que nous allons mesurer à quel degré chiffré la punition peut avoir une influence sur la mémoire. Aujourd'hui, messieurs, l'un de vous sera l'élève qui s'efforce de se souvenir, l'autre sera le moniteur qui, en lui infligeant des punitions progressives, va le conduire à mieux utiliser sa mémoire. Le mieux, il me semble, est de tirer au sort pour désigner qui sera le moniteur et qui sera l'élève.
Ah, je suis le moniteur.
C'est donc monsieur Rivoli qui sera l'élève.
Sophie Richardot, vous êtes docteur en psychologie sociale et vous êtes intéressée bien sûr aux travaux de Stanley Milgram. Qui était ce jeune chercheur qui, en 1961, à l'université de Yale, décide de mener une expérience de psychologie sociale qui a marqué les esprits et qui est encore connue aujourd'hui, plus de 60 ans après?
Stanley Milgram est un juif américain. Il est né en 1933 à New York, dans le Bronx. Il vient d'une famille d'immigrés juifs européens d'Europe de l'Est. Sa mère est d'origine roumaine, son père hongrois. Ouais. Et ils ont immigré dans les années 20 aux États-Unis. Et son père a toujours une partie de sa famille, d'ailleurs en Hongrie. Et il est important de souligner que Milgram a partagé l'angoisse donc de ses parents et de sa famille au moment où la guerre éclate. La Hongrie est envahie et la famille d'origine est persécutée. Et après la guerre, ils recevront d'ailleurs une partie de cette famille persécutée qui a réchappé à la Shoah chez eux, qu'ils hébergeront chez eux. Donc Milgram est quelqu'un qui est très marqué par la Shoah, par son histoire personnelle. Alors, c'est aussi quelqu'un qui va entreprendre au départ des études de sciences politiques et non pas de psychologie. Puis, il va bifurquer vers la psychologie sociale en travaillant notamment avec Salomon H., qui est une figure importante de la psychologie à cette époque. Et Salomon H., lui, il travaille sur le conformisme, sur la pression à la conformité, c'est-à-dire qu'il s'intéresse aux conflits possibles entre défendre ses opinions personnelles, quitte à justement faire preuve d'un certain non-conformisme par rapport à la majorité.
Messieurs, le principe de cette expérience est extrêmement simple. Voici une liste de 30 mots. Associer chacun à un adjectif.
I comme Icare, d'Henri Verneuil.
Ciel bleu, animal féroce, vent violent, etc. Monsieur Despol, vous allez lire à monsieur Rivoli ces 30 couples de mots. Ensuite, vous lui donnerez seulement l'adjectif. Et il devra, de mémoire, vous dire à quel mot cet adjectif se rapportait.
Ah oui, d'accord. Par exemple, quand je lui dirai bleu, il devra me répondre ciel. Quand je lui dirai féroce, il devra me répondre animal. Quand je lui dirai violent, vent.
Vous avez très bien compris. À chaque fois que M. Rivoli se trompera, vous lui infligerez une punition. Vous pousserez un de ses curseurs et il recevra une décharge électrique. À la première erreur, l'élève recevra 15 volts, 30 volts à la deuxième faute, 45 volts à la troisième, etc., etc.
Alors, Henri Verneuil, j'aimerais que vous nous expliquiez de quelle manière vous avez établi ce scénario qui vous a pris, je crois, beaucoup de temps, puisque depuis 3 ans, vous n'aviez pas tourné.
Henri Verneuil, en 1979.
J'ai lu un jour un livre qui s'appelle « La soumission à l'autorité » de Stanley Milgram, qui est un livre scientifique, qui est une expérience de psychologie. Et quand j'ai commencé à lire ce livre, qui se lit comme une série noire, alors que c'est un livre scientifique, Je me suis dit, mais c'est fantastique, car l'expérience avait un côté visuel. C'est à Yale, à l'université de Yale, à New Haven en Amérique. Un matin, en ouvrant le journal, vous pouviez lire l'annonce suivante. Université de Yale, professeur Stanley Milgram. Recherchons candidat pour une expérience sur la mémoire. $6 pour une heure de votre temps et 90 cents pour vos frais de transport. Expérience sur la mémoire, âge requis de 25 à 65 ans, toute profession, libéral, ouvrier, commerçant, cadre, etc. Et il a reçu 2000 réponses.
Veuillez commencer, monsieur Despaul.
Premier mot, bleu.
Ciel! Ciel bleu.
Juste. Mot suivant, féroce.
Rire féroce.
Non, c'est faux. La réponse était animal. 15 volts.
Cette expérimentation, elle est présentée comme une recherche sur l'apprentissage et la mémoire. Elle a lieu, et c'est très important, dans les laboratoires de la prestigieuse université de Yale. Il y a le rôle de l'élève et il y a celui du moniteur. Donc c'est une expérience sur l'apprentissage. Mais en fait, le tirage au sort est truqué. Le sujet est toujours le moniteur et le complice, toujours l'élève. Alors ce dernier, l'élève, est ensuite attaché un fauteuil et puis des électrodes lui sont fixées au poignet. On lui applique même une pommade spéciale pour éviter les brûlures. Donc on met en place une série de choses pour rendre l'expérimentation crédible. L'expérimentateur est en blouse blanche, la blouse du scientifique. Il conduit le moniteur dans une autre pièce une fois qu'il a harnaché l'élève. Et dans cette autre pièce, il y a un système de communication par le biais d'une espèce de radio, c'est-à-dire que l'élève et le moniteur s'entendent mais ne se voient pas. Alors, le moniteur est installé devant un tableau de commande équipé de 30 boutons gradués de 15 à 450 volts et sous ces boutons figure clairement la mention choc léger, choc modéré, choc fort, choc très fort, choc intense, extrêmement intense. Attention, choc dangereux, et finalement 3X, c'est-à-dire une forme d'explicitation de ce que sont susceptibles de faire les chocs. Le moniteur a devant lui aussi une liste de mots à faire associer. Il y a une tâche très simple, on doit faire apprendre des couples de mots à l'élève. Et puis, à chaque fois que l'élève commet une erreur, le moniteur doit lui administrer un choc électrique.
Mot suivant, violent.
Violent, attendez ça, ça je le sais. Souffle violent.
Faux, la réponse était vent, vent violent, 30 volts. Réfléchissez avant de dire n'importe quoi. Si vous croyez que ça m'amuse, moi, de vous envoyer des décharges.
Alors, la réaction de l'élève est préenregistrée et ce qu'on voit, c'est que à partir de 75 volts, l'élève gémit. À 120 volts, il crie que les chocs sont douloureux, et donc c'est tout à fait entendu par le moniteur. À 150 volts, il refuse de continuer. À 270 volts, c'est un cri d'agonie. Et à 300 volts, il râle et ne répond plus aux questions. Et à chaque fois que le moniteur hésite, l'expérimentateur lui enjoint de continuer, et si à la quatrième incitation, le sujet refuse, alors l'expérimentation s'arrête.
Mot suivant, jaune.
Citron.
Bien, très bien. Oui, c'était citron. Ben, allons-y. Mot suivant, grillé.
Pain. Pain grillé.
Mais non, c'est faux. C'était poisson. Poisson grillé. 165 volts.
Arrêtez. Je refuse de continuer. Laissez-moi partir.
Voyez-vous, il est évident qu'à partir d'un certain moment, M. Despaul va devoir affronter un problème. D'un côté, sa soumission à l'autorité, exécuter la mission qui lui a été confiée. De l'autre, sa répugnance à faire souffrir sa victime.
Despol va être progressivement secoué par un conflit intérieur presque insoutenable. Pour se tirer de cette situation, il devra rompre avec l'autorité et désobéir. C'est l'instant de cette rupture que nous étudions.
Alors, bien évidemment, les chocs électriques ne sont pas effectivement administrés, mais la mise en scène est tout à fait réaliste. D'ailleurs, au préalable, on fait même ressentir au sujet naïf un choc électrique sur son bras de 45 volts, donc ils se rendent compte que ça marche bien, en fait.
Alors, le mot suivant, c'est...
Un instant, monsieur. La main droite de monsieur Rivoli vient de glisser. L'électrode n'est plus en contact. Il faut que vous alliez rattacher les lèvres.
C'est à moi de faire ça?
Vous devez veiller à l'exécution correcte de ce qui a été convenu.
C'est une phase très intéressante de l'expérience. Le contact physique. Jusque-là, il agissait par manette interposée. Il doit maintenant toucher un homme qui ne lui a absolument rien fait et qu'il est en train de martyriser. Il arrive dans ces cas-là que le taux d'obéissance diminue.
Je vous en supplie, monsieur. Arrêtez.
Il faut y mettre de vous concentrer. Et de ne pas répondre n'importe quoi. Qu'on en finisse, merde, on va pas y passer la nuit, non?
Sophie Richardot, combien de personnes vont jusqu'à tuer une personne qui n'aura rien fait pour les simples besoins d'une expérience?
Alors, 62% des personnes acceptent, entre guillemets, hein, de poursuivre cette expérience jusqu'à son terme, jusqu'à 450 volts. Quand la personne ne répond plus, ils pensent qu'ils ont terminé l'expérience. Et là, l'expérimentateur leur dit, non, vous devez continuer et aller jusqu'à la fin des tâches d'apprentissage et de liste de mots. Si la personne ne répond pas, vous continuez à lui envoyer 450 volts.
Johan Lepage, docteur en psychologie sociale expérimentale.
Milgram a sollicité un échantillon de psychiatres et ces psychiatres ont prédit une désobéissance quasi unanime, à l'exception peut-être de quelques cas pathologiques qui pourraient aller jusqu'à administrer un choc de 450 volts. Mais les résultats ont provoqué un émoi important, puisqu'en fait on observe que 62,5% des participants ont obéi en allant jusqu'à administrer plusieurs chocs de 450 volts. On s'attendait notamment à ce que seules des personnes psychopathes, en fait, puissent aller jusqu'au bout d'un tel protocole. La psychopathie, elle concerne à peu près 1% de la population. Elle se caractérise par un défaut chronique d'empathie. Donc, les psychiatres se sont dit, OK, la condition pour adopter un comportement à ce point violent, c'est de présenter un défaut d'empathie. C'est pas du tout ce qu'on a observé.
Laurent Beck-Shankland, professeur en psychologie sociale.
Ce qu'a montré Milgram, de façon très convaincante, c'est que cette statistique-là, elle varie beaucoup en fonction, évidemment, des manipulations situationnelles. Si vous avez un contact direct physique avec la victime, pour pouvoir lui faire recevoir les chocs, vous devez appuyer sur sa main pour que sa main touche une plaque de métal pour recevoir le choc électrique, et bien le taux chute. Milgram expliquait dans son livre que pour régler l'expérience, pour la préparer, eh bien, il s'est rendu compte que lorsque la victime ne criait pas, lorsque les participants n'entendaient pas la victime, eh bien, presque tous allaient systématiquement jusqu'au bout.
Il y a d'autres paramètres qui jouent aussi. Le rapport à l'autorité, par exemple, quand l'autorité est loin, ne contrôle pas, donne ses ordres par téléphone, alors ce qu'on voit, et qui est une chose très importante pour l'interprétation des résultats, les gens vont un peu tricher. On leur dit, ben voilà, donnez un choc plus important, et ils donnent plutôt le choc d'en dessous. Ou même, quand on leur dit, ben choisissez le choc que vous voulez, ils choisissent des chocs toujours les plus bas. Il y a une belle variante aussi, où on déplace l'expérience. Au lieu d'être dans la prestigieuse université de Yale, elle est dans un sous-sol de New Haven, dans un bâtiment qui, paye pas de mine. Et là, en fait, la légitimité de l'autorité fond et il y a beaucoup moins de sujets qui obéissent à cet étrange expérimentateur. Donc, cette question de la légitimité scientifique, elle est essentielle et on le voit dans ce type, justement, de variation.
Dites, monsieur, On pourra peut-être passer au mot suivant pour une fois.
Il est absolument essentiel que nous poursuivions l'expérience, monsieur Despaul.
Ben oui, mais il ne répond plus. Vous devriez aller voir, il lui est peut-être arrivé quelque chose.
Que cela plaise ou non à l'élève, nous devons continuer. Jusqu'à ce que l'élève sache correctement les couples de mots.
Hé, monsieur! Vous m'entendez? Le mot est blanche.
J'en ai assez.
Qu'est-ce qu'on fait?
Considérez son silence comme une erreur et envoyez-lui 180 volts.
Il va pas bien du tout, ça risque de mal tourner.
Je prends sur moi toute la responsabilité.
Dans quel état, Sophie Richardot, se trouvent les moniteurs qui administrent à l'élève qui se trompe des chocs électriques de plus en plus forts jusqu'à être mortels?
Alors, ils ne le font pas de gaieté de cœur. C'est-à-dire que, en fait, Milgram s'attendait à produire chez les personnes un conflit à partir du moment où les chocs seraient trop élevés. Et donc, lui, ce qui l'intéressait, c'est à partir de quel moment les gens vont sortir de l'expérience, vont désobéir. Et ce qui se passe, et qui, à mon avis, un apport très important de cette expérience, c'est que les personnes ont tendance à rester même si elles désapprouvent ce qu'elles font. Elles ne sortent pas de l'expérimentation à partir du moment où elles éprouvent un conflit. Donc les gens sont particulièrement stressés, essayent de négocier, par exemple, avec l'expérimentateur, le fait de ne pas continuer l'expérience. Ils disent vraiment, je dois continuer. Alors on dit oui. Alors tout a été filmé, donc on le voit très bien. Il y a une lutte intérieure chez les sujets qui ne persistent pas du tout dans leur comportement par gaieté de cœur. À un certain moment, les sujets, particulièrement en conflit intérieur, se tournent vers l'expérimentateur et lui disent « mais qui va être responsable ?» Et donc, dans ces cas-là, systématiquement, il est prévu que l'expérimentateur dise « je suis responsable ». C'est-à-dire que la personne est mise donc en position d'exécutant. On donne un ordre à quelqu'un qui doit l'exécuter.
Johan Lepage, dans vos travaux, vous décrivez en quoi le stress dans lequel se trouvent les participants à l'expérience de Milgram peut être un inhibiteur d'empathie.
Oui, exactement. Qu'est-ce qui détermine la réponse quand on est en empathie pour la douleur? Donc, qu'est-ce qui va faire qu'on sera plutôt en sympathie ou plutôt en détresse personnelle face à la douleur d'autrui? Mais on a beaucoup de travaux qui nous montrent que la variable déterminante, c'est la vulnérabilité au stress. Donc, ce qu'on va observer, c'est que plus les personnes sont vulnérables au stress, plus elles éprouvent une difficulté à réguler l'intensité de leur réponse physiologique, empathique, plus elles vont être dans un état de détresse personnelle et adopter un comportement d'évitement vis-à-vis de la personne qui exprime de la douleur. Et à l'inverse, moins les personnes sont vulnérables au stress, plus elles parviennent à contrôler l'intensité de leur réponse physiologique, empathique, à réguler vers le bas, et plus elles éprouvent de la sympathie et plus elles adoptent un comportement d'aide. Donc c'est là la variable peut-être clé pour comprendre le comportement d'obéissance dans le protocole de Milgram, ce serait cette vulnérabilité au stress.
Alors Milgram a cherché à produire une théorie explicative des agissements des sujets de ces expériences. Il va décliner, à partir de cette expérience donc dite de base ou de référence, un certain nombre de paramètres pour comprendre justement comment le contexte peut affecter le comportement des personnes. À partir de toutes ces variantes, Milgram va construire une théorie, la théorie de l'étage antique, qui est une théorie qui dit une chose assez simple, c'est-à-dire que normalement on se perçoit comme l'auteur de ses actes, on est un agent autonome, mais quand on entre dans le royaume de l'autorité, pour reprendre la formule de Milgram, eh bien on ne se perçoit plus comme l'auteur de ses actes, mais l'auteur, d'une certaine manière, l'origine de nos actes est ailleurs, c'est l'autorité, et on ne fait qu'être un agent de cette autorité. Donc, d'où le terme d'état agentique. Et dans cet état agentique, on perd en fait le sentiment d'être responsable de ses actes. Voilà. On perçoit ce qu'on fait, mais on n'en est plus le responsable.
Mmh. Johan Lepage, vous l'avez dit, ce que vous démontrez, vous, dans le sillage de Milgram, c'est que une personne parfaitement empathique peut en venir à de tels actes.
Alors, ce qu'on observe dans la recherche en psychologie et neurosciences de l'empathie, c'est que quand les personnes sont en empathie pour la douleur d'autrui, ça peut amener à deux réponses émotionnelles, motivationnelles, antagonistes. Soit on va observer ce qu'on appelle de la sympathie, donc c'est une réponse émotionnelle centrée sur autrui, qui est précurseur du comportement d'aide, soit de la détresse personnelle, qui est une réponse émotionnelle aversive, centrée sur soi, précurseur du comportement d'évitement physique de la personne en détresse. Donc voilà, quand on est en empathie pour la douleur, on peut produire deux réponses opposées, une réponse d'aide ou une réponse d'évitement.
Françoise Cironi, vous êtes psychologue clinicienne.
Oui.
Comment on peut identifier des points de bascule psychique après lesquels désobéir devient presque impossible?
Il est plus facile d'obéir que de désobéir. À partir du moment où on est engagé et qu'on a déjà administré des chocs électriques, ou dans la situation réelle, on a déjà commis des crimes, des viols, revenir en arrière devient très difficile à ses propres yeux. Donc pour éviter les doutes, les tensions que Milgram a mis en avant aussi parmi les sujets, ils avaient une tension interne qu'ils ne supportaient pas, et pour la faire taire, ils préféraient continuer plutôt que de mettre en doute. Certains ont arrêté aussi, bien sûr.
Mais arrêter, c'est remettre en cause ce qu'on a fait jusqu'alors.
Exactement. Pour pouvoir remettre en cause, qui est-on pour pouvoir le faire? Pour pouvoir le faire, eh bien, il faut pouvoir se dire que douter n'est pas un problème. Se remettre en cause n'est pas un problème. Mais du coup, il faut avoir une identité solide et ne pas exister qu'en fonction du regard de l'autre.
Alors, on a bien compris que le degré d'obéissance dépend de variables contextuelles et de la réponse émotionnelle de chaque personne. Mais, Laurent Beck-Shankland, on observe aussi des variations entre individus, selon la personnalité des sujets.
Il y a en fait cinq grandes dimensions de la personnalité qui ont été identifiées par les psychologues à travers le monde. Donc c'est vraiment la théorie la plus complète de la personnalité qui distingue l'ouverture, l'esprit consciencieux, l'extraversion, l'amabilité et la stabilité émotionnelle. Voilà. Et parmi ces cinq traits, il y en avait deux qui étaient particulièrement pertinents. C'était l'esprit consciencieux, c'est-à-dire finalement être rigoureux, faire bien son travail, être organisé. Donc c'est mesuré encore une fois par des questionnaires auto-rapportés. Et la deuxième dimension qui était intéressante à mesurer, c'était l'agréabilité, le fait finalement d'être attentif aux attentes et aux besoins d'autrui. Donc en fait, les personnes qui ont un score élevé à l'agréabilité ou bien à l'esprit consciencieux, ce sont des voisins idéaux, ce sont des partenaires que l'on rechercherait. Mais dans le protocole de Milgram, le problème, c'est que ce sont des personnes qui sont finalement un peu enfermées dans ces rôles-là et qui vont chercher à remplir finalement leur mission de façon la plus sérieuse et la plus adaptée possible, étant agréable avec la personne qui les reçoit pour l'expérience, l'expérimentatrice ou l'expérimentateur, mais ne prenant pas en compte finalement la victime. De même, les personnes qui se situaient politiquement à gauche, eh bien, étaient également dans un contexte où ils étaient plus enclins à se rebeller, à finalement refuser de se soumettre à l'autorité, ou des personnes qui avaient dans leur histoire, et c'est, je trouve un point très important, participé à des grèves, à des manifestations, comme si finalement l'expérience passée de contestation eh bien, préparait ou bien traduisait des dispositions qui vont ensuite se décliner dans des situations nouvelles, comme par exemple une situation de laboratoire. Donc, ces résultats montrent que l'individu n'arrive pas vierge au laboratoire, il arrive avec ses références, avec ses traits, qui vont aussi partiellement, bien sûr, avoir une influence sur son comportement. Après, il y a eu donc voilà des nombreux travaux qui ont surtout mesuré l'autoritarisme de droite, qui est un trait qui a été développé suite aux travaux de Adorno, donc le philosophe Adorno qui s'est engagé également à des recherches quantitatives sur la personnalité finalement pré-fasciste. Des traits qui pourraient préparer des individus à obéir à des autorités et à agresser des minorités désignées par ces autorités. Voilà. Et donc ces questionnaires-là prédisent également la soumission à l'autorité.
Est-ce que vous diriez, Sophie Richardot, comme le résumait Henri Verneuil dans une interview de promotion de son film I comme Icare en 1979, qu'il est toujours, et c'est ce que montre Solomon Ash comme Stanley Milgram, qu'il est toujours beaucoup plus simple d'obéir que de désobéir.
Oui, assurément. Assurément. Alors, c'est pas la représentation qu'on a de nous-mêmes et qu'on a de l'individu contemporain. On a cette idée que on a notre libre arbitre, qu'on ferait jamais des choses pareilles, que l'on est capable de penser par soi-même. Souvent, d'ailleurs, quand j'enseigne cette expérience, qui est un grand classique de la psychologie sociale, mes étudiants me disent « Mais bon, ça, madame, c'était autrefois, c'était hier, c'était les gens d'avant, c'était des gens soumis. Aujourd'hui, voilà, on ne pourrait pas reproduire de tels résultats. » Or, ce qu'on voit, effectivement, ce que montre toute la psychologie, mais aussi l'histoire, on en parlait tout à l'heure, c'est que il est beaucoup plus difficile, en fait, de désobéir, de se détacher, désavouer les autres. Hein. Quand on est le seul à dire autre chose, eh bien, on casse l'unanimité du groupe.
Je crois que le niveau important à considérer, c'est le niveau d'inclusion dans des collectifs, dans des groupes auxquels nous accordons du crédit, qui nous apportent de la sécurité, qui nous apportent du sens. Ces groupes qui nous ont donc transmis nos connaissances culturelles, qui sont évidemment indispensables. Et ces groupes-là, eh bien, nous leur rendons en quelque sorte ce qu'ils nous ont apporté en participant à un système, à une toile finalement de signification sociale. Et nous sommes très conscients que si nous ne nous alignons pas à ces attentes collectives, nous risquons la mort sociale, nous risquons l'exclusion, qui est une expérience qui peut être très dangereuse. Donc on a tout intérêt à rester inséré dans ces groupes et à ne pas prendre des positions déviantes. Lorsque quelqu'un investi d'autorité vous donne un ordre, eh bien ce n'est pas d'abord à sa personne que vous obéissez, c'est effectivement au groupe dans lequel vous êtes inséré.
C'était « Milgram, une expérience qui dérange » avec Sophie Richardot, docteur en psychologie sociale, Laurent Beck-Chankland, professeur de psychologie sociale, Johan Lepage, docteur en psychologie sociale expérimentale, et Françoise Cironi, psychologue clinicienne. Prise de son, Jean-Louis Deloncle et Éric Boisset. Documentaliste INA, Pierre Pinault. Extrait du film I comme Icare, réalisé par Henri Verneuil en 1979. Coordination Emmanuel Laurentin avec Sandrine Chaperon. Un documentaire de Quentin Jagorel, réalisé par François Teste. À suivre le second épisode, Milgram aujourd'hui.